Jean Bobéraud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien et sociologue, président honoraire de l'École pratique des hautes études, où vous êtes professeur émérite de la chaire d'histoire et de sociologie de la laïcité. Vous avez écrit plus d'une vingtaine d'ouvrages, à la fois sur le protestantisme et sur la laïcité, parmi lesquels je cite, entre tous, deux que sais-je, l'histoire de la laïcité en France et les laïcités dans le monde. Et si je vous ai invité aujourd'hui, c'est que depuis quelque temps, l'idée me gagne d'analyser avec un spécialiste et de la religion et de la laïcité l'attitude pour le moins curieuse du président de la République vis-à-vis des religions. Attitude qui me semble osciller entre une action méditée et une provocation un peu irréfléchie. Et je voudrais que nous reprenions les faits. En 2004, alors qu'il est ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy écrit un livre, publié au Cerf, « La République, les religions et l'espérance » avec Thibaut Collin, de la Fondation du Service Politique, dont j'aimerais d'ailleurs que nous disions deux mots un peu plus tard. Au lendemain de son élection présidentielle, quand il n'a pas encore pris ses fonctions, son entourage affirme qu'il va se retirer dans un monastère pour se livrer à une assiège et pour mieux habiter la fonction. Il n'en fait rien, il ira plutôt en croisière sur le yacht de Vincent Bolloré. Au mois de décembre dernier, il part à Rome avec une délégation d'amis. Ce ne sera ni René Girard, ni Rémi Brague, mais le père Guy Gilbert, Bigard et Patrick Buisson, entre autres. Il est un des présidents à aller prendre effectivement possession du titre honorifique de chanoine d'honneur de Saint-Jean-de-Latran. Il prononce le discours de Latran, sur lequel j'aimerais que nous revenions aussi, puis il prononce un deuxième discours sur la religion à Riyad. Reçu par les francs-maçons et au dîner du CRIF, à chaque fois, ses propos étonnent ou inquiètent. Pouvons-nous donc ensemble revenir sur chacun de ces points pour les analyser? Mais d'abord, pouvons-nous dire d'emblée quelque chose de ces différents éléments? Nicolas Sarkozy est-il comme un enfant qui découvre la fonction présidentielle, sans mesurer comment l'habiter justement, mais en jouissant sans réflexion? Jeu d'éloge Villepin de la Lanterne, résidence traditionnelle des premiers ministres, et ne la propose pas François Fillon. Je me l'accapare, j'investis le Fouquet, le yacht de Bolloré, sans me soucier du candidat-on. Je suis, puisque j'y ai droit, chanoine d'honneur du Latran, et je fais tout ce qui me fait plaisir en justifiant les choses après coup. Ou bien y a-t-il autre chose que cette attitude un peu infantile? Une intention plus délibérée, investir autrement la fonction présidentielle en se démarquant des présidents précédents, tous apparemment plus respectueux de l'étiquette et de la laïcité, et être fidèle et flatteur à un électorat chrétien qui l'a mené au pouvoir.
Alors je vais prendre votre question peut-être par la fin et puis je vais remonter parce que vous avez dit beaucoup de choses intéressantes. D'abord, effectivement, quelqu'un comme Charles de Gaulle, qui était catholique de conviction, avait compris la réserve, la mise à distance qu'il fallait avoir quand on est président d'une république laïque. Et quand ses fonctions l'amenaient à assister à une messe, lors d'un enterrement par exemple, il assistait mais ne participait pas, c'est-à-dire qu'il ne communiait pas et ne faisait pas le signe de croix. Mm-hmm. Donc on voyait bien qu'il assistait à ses fonctions, mais qu'il ne faisait pas acte de catholicisme. Bon. Jacques Chirac a commencé à transgresser cela en communiant. Bon. Nicolas Sarkozy, lui, ne peut pas communier puisqu'il est deux fois divorcé. Et vous avez parlé d'une attitude un peu enfantine, adolescentrique. Moi, je me demande s'il n'y a pas aussi cet aspect de quelqu'un qui est catholique, bon, très bien, c'est tout à fait son droit, qui, du coup, est un peu un croyant de seconde zone pour son église, puisqu'il est divorcé, il ne peut pas communier normalement, etc., et qui, peut-être, en fait beaucoup pour essayer de montrer qu'il est quand même un bon catholique, etc. Bon. Alors, vous avez parlé aussi, et je crois que c'est intéressant, du fait qu'il avait laissé dire qu'il irait dans un monastère, qui finalement, il est allé chez le yacht de son ami, le milliardaire Bolloré. Et je crois que là, on voit bien un aspect de son personnage. Je pense qu'il a eu envie d'aller dans un monastère, qu'il est fasciné, dans quelque sorte, par la religion à un certain niveau, Et sinon, ça aurait été une erreur de com' terrible d'avoir fait courir ce bruit. Bon. Et puis finalement, Bolloré lui a proposé un yacht, et quand même là, il n'a pas pu y résister. Donc je crois que là, on voit bien un peu la psychologie du personnage.
Pourrions-nous revenir, peut-être, sur les circonstances de la publication de ce livre, La République, les religions et l'espérance? Et pouvez-vous nous en dire un peu plus sur qui sont les conseillers Nicolas Sarkozy en matière de religion? Je pense par exemple à Thibault Collin, à Philippe Verdun, à Emmanuel Mignon, à Henri Gouesnou, dont on dit qu'ils sont pour ces deux derniers les instigateurs et du discours de Latran et du discours de Riyad.
Alors effectivement, le livre de 2004 est un livre d'entretien où il y avait Thibault Collin et Philippe Verdun. Bon, mm-hmm. Thibault Collin est passé à la trappe, c'est quelqu'un d'assez agressif vis-à-vis des homosexuels, et peut-être quand même c'est ça qui l'a fait disparaître, disons, de la bande, je pense. Bon, Philippe Verdun est un dominicain qui est très savant, disons, dans ce que j'appellerais moi une sous-culture catholique, qui est évidemment riche, Thomas d'Aquin, Saint-Augustin, etc., mais qui me paraît ne pas avoir lu ou pas avoir compris, en tout cas, les maîtres du soupçon, et donc qui aurait besoin de moderniser sa culture autrement que par les jeunes qui ne maîtrisent pas par ailleurs. Bon. Emmanuel Mignon est sa directrice de cabinet. Mm-hmm. Bon, elle est catholique, ce qui est son droit le plus absolu, bien sûr, absolument. Mais on se demande si, dans la matière, pour ce discours du Latran, elle n'a pas fait un peu un court-circuit entre ses convictions propres et sa compétence. Henri Guénaud et sa plume attitrée, on se demande pourquoi d'ailleurs il a été dépossédé du discours du Latran. Mm-hmm. Il a émis le discours de Riyad. Le discours de Riyad, il y a des aspects politiques, bon, dont c'est pas le lieu de discuter ici, mais le début en rajoute une couche par rapport au discours du Latran, qui lui est un discours, moi, que j'appellerais néoclérical. Et bon, on va peut-être un peu préciser les choses.
Oui, alors c'est ce que je souhaiterais. Quels sont, selon vous, Jean Bobéraud, les points que vous trouvez les plus graves, et dans le discours de Latran, et dans le discours de Riyad, qui constituent, selon vous, des atteintes à l'esprit de la laïcité à la française?
Oui, alors d'abord on se demande pourquoi il ranime des vieilles querelles. La dernière condamnation de l'école publique par l'Église catholique, c'est en 1925. Ça date quand même maintenant de près de 100 ans, pas tout à fait, mais presque. Et lui, il se met à dire que la morale de l'instituteur peut pas remplacer celle du curé, mmh. qu'il y a une radicalité du sacrifice dans la morale du curé que l'instituteur peut pas atteindre, etc. Il se met à d'abord mettre les deux morales sur le même plan, mmh. alors qu'elles sont sur un plan différent, et quand même à dire, il a essayé de dire qu'il n'avait pas dit après, mais quand on lit le discours, c'est très clair, à dire que la morale du curé ou du pasteur est supérieure à celle de l'instituteur. Or, vraiment, il y a deux plans très très différents. Il y a le plan des valeurs communes que l'instituteur doit transmettre, qui sont les valeurs qui sont dans le préambule de la Constitution, qui sont les valeurs que la devise « liberté, égalité, fraternité » résume et symbolise à la fois. Bon. Et ça, c'est, disons, les valeurs qui fondent le lien social, qui font que tous les Françaises et tous les Français font une société qui n'est pas liée uniquement par des intérêts propres, mais aussi par un certain nombre de valeurs. Bon. Et puis après, libre à chacun de chercher qui dans des morales philosophiques, qui dans des morales religieuses diverses, son propre chemin, si vous voulez, au niveau moral et spirituel. Et c'est pas une affaire d'État, l'État n'a pas à croire à sa place, et cette liberté ne doit pas lui être ôtée, et ce court-circuit entre ces deux niveaux me semble quelque chose de très grave. Au demeurant, il y a aussi dans le discours du Latran une vision de l'histoire que je trouve complètement fausse, où finalement il raconte de manière assez idyllique tous les rapports que la France a entretenus avec le Saint-Siège au moment de la société de chrétienté, alors qu'il y avait une grave confusion entre le temporel et le spirituel, et une imbrigation qui finalement était en défaveur de la liberté de penser, de la liberté de conscience. Et du coup, parce qu'il a pas parlé de ces conflits, qu'il n'a pas parlé de ces difficultés au niveau de la liberté de conscience, eh bien, on voit pas pourquoi il y a la laïcité, et il se met à parler de la laïcité de manière dépréciative, jusqu'à cette fameuse avènement d'une laïcité positive dont il serait le porteur, mais qui signifierait que la laïcité était négative jusqu'à lui. Le début du discours de Riyad, il y a l'indication que Dieu serait dans le cœur et la pensée de chaque homme, qui là encore est quelque chose que n'a pas à dire un président de la République laïque. La République laïque, c'est le droit de croire en Dieu, le droit de ne pas y croire, et on n'a pas, même en Arabie Saoudite, peut-être surtout pas en Arabie Saoudite, de dire qu'il y aurait une évidence de Dieu qui ferait que chaque être humain normalement constitué devrait avoir un Dieu transcendant dans son cœur et dans sa pensée.
Alors pourquoi fait-il cela? Pour des raisons politiques? Par rapport justement à l'islam?
Alors, je pense que chez lui, il y a l'idée un peu de faire plaisir à tout le monde, et il se rend pas compte qu'en tant que président de la République, chaque discours qu'il fait est un discours qui engage son pays, qui engage la France. Et donc, il n'a pas à faire plaisir, il a à respecter un certain nombre de principes, et ces principes sont quand même assez clairs, ce sont des principes de tolérance, ce sont des principes de liberté, et il pourrait très bien être tout à fait poli et diplomate vis-à-vis de ses interlocuteurs, tout en respectant les balises de la laïcité, et montrer au contraire que justement la laïcité a, depuis 1905, toujours eu un aspect éminemment positif de respect de toutes les croyances et les options philosophiques.
Nous assistons à une politique qui ne cesse de faire des toilettages, une manière peut-être de dire qu'on tient à couper avec des acquis dont on se démarque réellement. Nous l'avions montré d'ailleurs dans l'émission du mois dernier à propos du programme du CNR. Aujourd'hui, il s'agit peut-être, je voudrais que vous nous éclairiez là-dessus, de la loi sur la laïcité de 1905. J'y vois personnellement, derrière ce vocabulaire démagogique du toilettage, une atténuation, une volonté peut-être de s'aligner politiquement sur un libéralisme de type non républicain ou une dérive peut-être bouchiste. C'est dire que le sarkozysme, ce n'est pas n'importe quel libéralisme, mais peut-être un libéralisme d'ultra qui manie cependant dans le vocabulaire et de façon troublante la reconnaissance de la laïcité et sa dénonciation tout en même temps.
Oui, c'est pour ça que moi j'ai parlé de laïcité néocléricale, ce sont des termes qui normalement s'excluent l'un l'autre, mais bon, il y a des fois où évidemment il est quand même obligé et amené à réaffirmer quelques principes basiques de la laïcité, et d'autres fois où il s'en écarte, il y porte atteinte de manière manifeste. Alors, si vous voulez, moi j'aurais une position à la fois nuancée et ferme par rapport à la loi de 1905, c'est-à-dire que en gros, la loi de 1905, au niveau de ses principes, dit d'un côté, c'est l'article 1, la République garantit la liberté de conscience et le libre exercice des cultes, et l'article 2, la République ne reconnaît aucun culte, c'est-à-dire il n'y a aucune officialité d'aucune religion en France. Bon. Et je crois que l'important, c'est vraiment de respecter ces deux principes fondateurs. Bon. Alors qu'après y ait actualisé, si vous voulez, les conditions de la liberté de culte et du libre exercice du culte, de la liberté de conscience, pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, qu'on réexamine les choses pour actualiser les conditions de la liberté, oui, mais à condition qu'on ne fasse pas glisser par ce biais-là la moindre officialité. Et c'est ça qui est dangereux, et c'est là où les discours de Nicolas Sarkozy, alors pour le moment on est dans l'ordre du symbolique, mais on peut se poser des questions, parce que sous couvert de dire qu'on respecte les religions, très bien, eh bien là, on va essayer de les re-officialiser, parce que finalement, on préfère que les gens regardent vers le ciel plutôt que s'occuper des affaires terrestres, qui est pourtant le cahier des charges du politique.
Bien sûr. Alors Jean Bobéro, je voudrais vous poser ma traditionnelle question de fin d'émission. Pourquoi Jean Bobéro, êtes-vous rationaliste? Mais à vous, il faut demander plutôt, comment êtes-vous à la fois rationaliste et protestant, et membre de l'Union rationaliste?
Alors, je rappelle que les statuts de l'Union rationaliste disent que, je cite, hein, ça vaut le coup,
oui,
ne repose sur aucun dogmatisme doctrinal et moral, elle est ouverte à tous les esprits indépendants qui ne se satisfont pas des idées toutes faites ou des croyances incontrôlées. J'essaye d'être un esprit indépendant et de pas me satisfaire d'idées toutes faites ou de croyances incontrôlées. Et là aussi, les statuts de l'Union rationaliste le disent d'ailleurs. La raison n'est pas tout l'être humain, mais elle est essentielle à l'être humain. Elle a un rôle fondamental dans l'avenir humain et elle doit être à la fois promue et défendue, et qu'actuellement, effectivement, ne serait-ce que par les médias de masse, par exemple, pour prendre un exemple, il y a une manière de privilégier l'émotion, l'affectif, le pathos, disons, qui est un danger pour la raison. Je pense aussi que la prolifération des devoirs de mémoire, on a bien vu d'ailleurs la dérive qu'il y a eu dernièrement, oui, avec cette histoire des enfants de la Shoah, est un nouvel obscurantisme, parce que on a d'abord un devoir d'histoire, de faire une histoire scientifique, et puisque je suis historien et sociologue, c'est à quoi je m'emploie autant que faire se peut. En tant qu'historien et sociologue, je pratique ce que j'appelle l'agnosticisme méthodologique, c'est-à-dire j'ai pas fait à faire une sociologie protestante ou une histoire protestante, j'essaye de faire une histoire et une sociologie la plus objective possible. Par contre, il y a aussi effectivement le plan du symbolique, le plan des croyances, et là, effectivement, je ne me cache pas que j'ai des convictions protestantes, et je crois que je peux très bien articuler cela sans être schizophrène, sans faire un grand écart, mais en défendant la raison pour tout ce qui la concerne, et Dieu sait si le domaine de la raison est un domaine important et qui vaut la peine de défendre, et en ayant mes propres convictions, mes propres croyances, et je suis très à l'aise à ce niveau-là dans l'union rationaliste.
Bon, eh bien, sur ces paroles, Jean Bobéraud, il me reste à vous remercier. Vous pouvez nous écrire à l'Union Rationaliste pour réagir à cette émission ou en demander le texte. Union Rationaliste, 14 rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. Vous pouvez également nous joindre par courrier électronique union.rationaliste@wanadoo.fr. Vous pouvez également aller sur notre site union-rationaliste.org pour réécouter ces émissions. Je signale le dernier numéro paru de Raison présente, vous avez dit théâtre, et je signale que le dernier numéro des Cahiers rationalistes comporte un article très intéressant de Jean-Pierre Kahn sur science, démocratie. Je remercie Brigitte Mazire qui a rendu possible cette émission.